Vous êtes sur RTL.
Bonjour Thomas Pesquet.
Bonjour.
Et quel bonheur de vous parler depuis le centre de contrôle de la NASA à Houston au Texas, c'est bien ça Thomas ?
Oui, c'est ça, le centre Johnson Space Center où j'ai passé la plupart de mon temps ces derniers mois. Oui.
Alors, ça y est, le chrono est enclenché. Départ dans 10 jours à destination de l'ISS, la Station Spatiale Internationale, pour une mission de 6 mois. Thomas, c'est la deuxième fois que vous voyagez dans l'espace. Qu'espérez-vous retrouver comme sensation ?
Je pense qu'il y a deux sensations que j'ai vraiment hâte de retrouver. La première, c'est évidemment celle de l'impesanteur, de la légèreté, de cette espèce de super pouvoir de flotter, qui est quand même super agréable. Ce n'est pas toujours facile, parce qu'il faut changer la manière dont on fait les choses, mais c'est très agréable de se libérer des contraintes de son corps, en fait. Et la deuxième, c'est vraiment la sensation de mission où tout le monde, en fait, a le même but, où il y a énormément de gens qui tirent dans le même sens et tous les matins, en se levant, on sait exactement ce qu'on a à faire. Les priorités sont claires, on n'a qu'un interlocuteur et on est là pour le boulot.
Et là, vous êtes plus en confiance, comme c'est la deuxième fois que vous partez dans l'espace. Vous avez moins d'appréhension ?
C'est drôle parce que ça dépend des systèmes. Je pense que globalement, il y a beaucoup de choses que je sais faire maintenant. Enfin, je m'étais entraîné la première fois, mais je ne l'avais jamais fait en réalité. Donc, on ne sait jamais trop comment ça va se passer en vrai. Hein. C'est comme la différence entre l'entraînement et les compétitions en sport. Mais il y a aussi des choses, par exemple, le lancement. Quelque part, quand on est plus naïf, on ne sait pas tellement à quoi on s'expose. On y va de manière peut-être un peu plus relaxe. Ça fait un peu peur, mais on ne sait pas tellement. La deuxième fois, on sait exactement à quel point c'est impressionnant. Hein. C'est comme un deuxième saut en parachute ou un deuxième tour de manège quand on a fait le premier. On sait à quoi on s'expose. Donc, on y va de manière plus réfléchie, on va dire.
Et justement, combien de temps va durer le vol vers l'ISS ?
Alors, l'ascension en fusée, c'est 8 minutes 48 exactement, hein, 2 minutes 50 de premier étage et ensuite tout le reste sur le deuxième étage, donc une accélération jusqu'à 4G. C'est en gros la même accélération qu'une Formule 1, on passe de 0 à 100 km/h toutes les 2 secondes, enfin on accélère de 100 km/h toutes les 2 secondes, sauf que nous on ne va pas arrêter de faire ça pendant 8 minutes 48. Ensuite, une fois qu'on est en orbite, c'est beaucoup plus calme. Là on flotte, on a des manœuvres, en fait on a un moteur d'apogée qui va nous permettre de manœuvrer, de changer notre orbite et de se rapprocher petit à petit, de rattraper l'ISS par en dessous, de se rapprocher, d'en faire le tour, un peu comme l'approche d'un avion hein, quand on vient se poser sur un aéroport. Et puis tout ça, ça va durer aller à peu près 24 heures, un peu plus, je pense 26 heures, 27 heures, on sera sur l'ISS.
Et vous restez éveillé pendant 24 heures ou vous avez des petits temps de pause ou non ?
Non, on va faire, je pense, une nuit au milieu. On a une nuit, une période où il n'y a pas beaucoup de manœuvres à faire. Donc on va faire ça, on va peut-être se relayer. On est en train d'affiner tout ça en fonction des vrais paramètres, de l'orbite et de la vraie heure de décollage et de tout ce qu'on va faire pour de vrai. Mais il devrait y avoir une nuit, ouais, on va déplier nos sacs de couchage et puis trouver un endroit où dormir, peut-être dans nos sièges, peut-être en dessous. On regarde tout ça en ce moment.
Alors, c'est la première fois que vous partez à bord d'une capsule américaine, la Crew Dragon, la navette américaine de SpaceX, l'entreprise d'Elon Musk. Vous êtes le premier Français à voler dans une fusée privée. Est-ce que ça veut dire, Thomas Pesquet, qu'il va falloir s'habituer à ce que l'exploration spatiale maintenant se fasse dans le domaine privé et pas seulement avec les États ?
Je pense que il y a un changement qui se passe, mais qui est peut-être pas aussi important que ce dont on a l'impression, parce que ça a toujours été des entreprises privées qui construisaient en fait la navette spatiale, qui construisaient tout ce dont on a l'habitude côté européen aussi, hein, que ce soit les Boeing, les Airbus, etc. La différence ici, c'est qu'on a laissé plus, enfin la NASA surtout a laissé plus d'autonomie en fait à SpaceX, qui est son sous-traitant, en lui disant ben voilà, plutôt que lui dire exactement comment faire, on lui a dit juste ce qu'il fallait faire, en gros, à quelles conditions on veut 4 personnes dans l'ISS tous les 6 mois, des choses comme ça. Et il y a eu beaucoup de liberté qui a été donnée, mais le donneur de contrat, c'est quand même toujours la NASA, l'exploitant de l'Agence spatiale européenne, c'est la NASA et le partenariat, l'ESA, nos collègues russes, japonais, etc. Donc c'est quand même encore toujours les agences et les États qui gèrent les programmes d'exploration et on fait appel aux compétences du privé pour les réaliser. Donc on a déplacé un peu le curseur, oui. Mais c'est pas non plus un grand changement fondamental dans le sens où c'est pas Elon Musk qui décide aujourd'hui de ce qu'on va aller explorer dans le spatial, c'est encore les États et les agences.
Mais Ariane envoie des satellites, pas encore des hommes. Vous espérez qu'un jour ça arrive ?
Oui, j'aimerais bien qu'on ait cette capacité en Europe. On en a beaucoup parlé à l'époque du programme Hermès, qui malheureusement c'est pas bien fini, mais il y a eu des circonstances historiques aussi qui ont fait que l'Allemagne s'est réunifiée, les Allemands ont dû avoir des priorités dans leur budget. Enfin, il s'est passé beaucoup de choses qui ont fait que ça n'a pas marché. Peut-être qu'avec Ariane 6, oui, on a une chance de repartir d'une page blanche et puis d'avoir cette capacité-là. Si on l'avait eu à la retraite de la navette spatiale, là où les Russes, nos collègues russes ont eu quelque part le monopole de l'acheminement des équipages vers la station spatiale, on aurait été en très très bonne position.
Vous voyagez donc sur Crew Dragon, la navette américaine de SpaceX, je l'ai dit. Ça change quoi par rapport à Soyuz? Elle est plus confortable, il paraît?
Soyuz, ça a été étudié à la base pour une personne, puis deux, puis trois, puis des un peu plus grands. Au début, c'était plutôt des jockeys, hein, les astronautes, c'était taille minimale. Donc, on est vraiment comprimé. Enfin, moi, je fais 1m83, 4. Donc, je rentre difficilement avec les genoux sous le menton, des positions pas très confortables. Crew Dragon, on voit que c'est un peu plus spacieux, c'est un peu plus moderne. Évidemment, les principes physiques sont les mêmes. Hein, le vol dans l'espace est le même pour tout le monde, mais il y a plus d'automatisation, l'information est plus synthétisée, la manière dont elle est présentée aux pilotes est quand même plus agréable. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de technologies modernes, mais bon, ce qui compte, c'est que ça soit fiable. Pour l'instant, le Soyuz a 200 lancements sans problème. Le Crew Dragon en a juste deux. Nous, on sera le troisième, donc on espère que le nombre va continuer à augmenter.
Il paraît que vous avez de très jolis scaphandres.
Je ne sais pas s'ils sont très jolis, ils sont noirs et blancs, mais c'est vrai que, évidemment, nous, on a plutôt tendance à penser à l'aspect sécurité. Un scaphandre, c'est fait pour nous protéger de la dépressurisation, pour nous protéger du feu, pour nous permettre de communiquer. Oui. Donc il y a des fonctions qui sont quand même très importantes, mais c'est vrai qu'ensuite on sent bien que chez SpaceX ils ont eu l'intention de que ça soit aussi sympa à regarder. Il y a vraiment je sais pas si c'est écrit noir sur blanc dans le cahier des charges, mais ils essaient de faire quelque chose qui soit un peu joli, et pourquoi pas en fait au final si on veut envoyer des gens dans l'espace, on veut que ça intéresse les gens parce qu'on les fait pour, on le fait pour eux, donc du moment que ça nuit pas à la priorité qui est la sécurité, bon, nous on n'a rien à dire à ça.
Alors, à bord de l'ISS, la nouveauté, c'est que vous allez être aux commandes, hein, en partie. Votre mission, Thomas Pesquet, c'est pour préparer les futures missions sur la Lune et sur Mars. Qu'est-ce que vous allez faire ?
Oui, c'est effectivement, l'ISS, c'est deux choses. Hein. C'est un laboratoire de recherche, donc on essaie de découvrir des choses qu'on ne peut pas découvrir sur Terre. Ça, c'est dans le domaine de la médecine, dans le domaine de la science des matériaux, et ça, on en fait beaucoup. Ça nous occupe quasiment 50% du temps. Mais l'ISS, c'est aussi une étape sur la route de l'exploration. On sait très bien qu'on a envie d'aller vers Mars. On sait que c'est là où on va répondre à des questions un peu fondamentales sur l'origine de la vie, sur d'où on vient, nous, et où est-ce qu'on va en tant qu'espèce. Et ça, on a besoin de le régler là-bas, mais on ne sait pas encore y aller. Donc, il faut apprendre, il faut répéter. C'est comme l'aviation, en fait. Il faut répéter les technologies, il faut étudier l'homme dans l'espace, et un jour, on sera prêt à aller vers Mars. Et y a une bonne partie du temps à bord de l'ISS qui sert à préparer la suite.
J'ai lu que Elon Musk, le patron de SpaceX, pensait qu'on pouvait aller en Mars en 2024, et vous n'êtes pas tout à fait d'accord, je crois.
Non, moi je suis pas d'accord. Mais je pense que c'est, on va dire, il y a sans doute des petits caractères tout en bas qui disent, si toutes les choses se passent extrêmement bien et si on a un budget infini, on pourrait y être sur Mars en 2024. Mais c'est pas un scénario qui est vraiment très réaliste. C'est vrai qu'ils ont avancé très très vite, hein, ce qu'a fait SpaceX. Il faut quand même pas, hésiter à les complimenter parce que c'est assez impressionnant. Mais Mars en 2024, surtout dans les proportions dans lesquelles il l'indique, avec des équipages extrêmement étendus, non, ça marchera pas. Si on est sur la Lune en 2024, qu'on est en train d'y construire une base permanente, ce sera déjà superbe.
Et ça, vous en rêvez d'aller sur la Lune?
Ça, ce serait. Ça, j'en rêve parce que ce serait l'étape suivante logique. Hein. On a encore pas mal de recherches à faire sur la Lune. Il y a plein de choses à apprendre, mais on sait surtout que c'est une répétition obligatoire. C'est la traversée de la Méditerranée en avion, alors que ce qu'on veut faire, c'est la traversée de l'Atlantique. Mais il faut répéter nos gammes. On est obligé. Si on ne sait pas faire la station spatiale, on ne saura jamais aller sur la Lune. Si on ne sait pas aller sur la Lune, on ne saura jamais aller sur Mars. C'est 1000 fois plus difficile, c'est 1000 fois plus loin. Donc il faut y retourner, c'est certain, mais de manière plus durable. Vraiment pas juste pour planter un drapeau et dire ça y est, on l'a fait, bravo. Pour y rester, pour faire une base en coopération internationale, pour faire de la recherche scientifique de manière plus durable, plus renouvelable. Et une fois qu'on saura faire ça, on regardera la suite. Oui.
Thomas Pesquet, vous allez encore nous faire de jolies photos de la Terre?
Bon, je vais essayer, oui, mais c'est vrai, comme vous l'avez dit tout à l'heure, avec le changement de rôle à bord de la station, je serais peut-être encore plus occupé que la dernière fois. La dernière fois, c'était, j'ai tendance à plutôt faire ça sur mes heures de sommeil. Bon, je vais essayer, parce que je sais que maintenant, malheureusement, il y a une attente. Les gens me disent, ah, Thomas, il faut faire
Bah
les
oui.
photos encore mieux. Je vais dire, bah, je vais essayer. Mais non, non, c'est important. C'est important de partager la mission. C'est pour ça que je l'ai fait la première fois. C'est beaucoup de boulot, mais c'est aussi un plaisir. On se sent moins seul. Ça crée de l'engouement. Donc, c'est sûr que c'est bien. J'ai quelques photos que j'ai pas réussi à prendre la première fois, hein, le Machu Picchu ou d'autres, des cibles qui étaient difficile. Donc je me suis mis ça dans un coin de la tête et puis ce sera mon objectif pour la deuxième.
Il vous arrive de ressentir le danger là-haut. Je pense les sorties extravéhiculaires, vous les avez décrites, ça fout la trouille, quoi.
Oui, c'est impressionnant. Ouais, c'est impressionnant. En fait, ce qui est étonnant, c'est que, en fait, on découvre des réactions de son cerveau qui font que moi, j'étais super surpris parce que vraiment d'être agrippé, enfin de tenir la station même avec deux doigts et d'avoir les pieds qui balancent dans 400 km de vide, ça faisait pas peur du tout. Par contre, de mettre une longe sur la station, comme on le fait en escalade, et de lâcher les deux mains et de se sentir dérivé, en fait, tomber, c'est comme une chute très lente de la station. On sait qu'on risque rien parce qu'on est attaché, donc on n'ira pas bien loin de toute façon, mais cette sensation, elle est absolument horrible et le cerveau l'aime pas du tout. Donc il faut la répéter 4-5 fois. On le fait au début d'une sortie hein, pour qu'ensuite le cerveau arrête d'envoyer des warnings chaque fois que ça se passe parce qu'on va avoir besoin de travailler comme ça.
Thomas Pesquet, vous savez qu'il y a 60 ans, pile, avait lieu le premier vol spatial humain avec le russe Yuri Gagarin. C'était le 12 avril 1961. C'est le jour où vous partez, vous aussi?
Oui, absolument, mais c'est vrai que c'est un peu une date T0 pour nous. Il y a énormément d'admiration. Alors bon, évidemment, personne n'a connu aujourd'hui Yuri Gagarin à l'époque, même si à la Cité des Étoiles, on a encore des instructeurs qui étaient très jeunes à l'époque, qui sont encore là, ou des gens qui vivent dans le coin, qui ont connu. Mais il y a une grande admiration. Et puis voilà, c'est vraiment le début de cette ère, les Russes appellent ça l'ère de la conquête spatiale, hein, sans forfanterie. Et ben, on espère continuer dans ce chemin-là avec un esprit pionnier tel qu'il était à l'époque.
Je vous ai entendu dire que vous étiez chanceux d'être arrivé là où vous êtes. C'est vrai que vous avez l'air tout à fait normal, alors que pour faire ce que vous faites, on n'est pas tout à fait normal. Mais chanceux, normal, c'est ce que vous êtes.
Oui, je pense, parce que en fait, c'est bah déjà la chance, c'est certain, il y a beaucoup de chance dans tous les parcours. Il faut être au bon endroit au bon moment. Moi, je suis en bonne santé. Il y a une énorme partie de la sélection, c'était la vue, l'ouïe. Il fallait pas avoir de caries. Il faut courir sur un tapis roulant. Enfin, des choses comme ça. Ça, j'y suis pas pour grand chose. Je peux remercier mes parents, mais moi, j'ai pas eu l'impression d'avoir beaucoup travaillé pour ça. Donc voilà. J'avais le bon âge au bon moment. Il y avait des gens qui étaient jeune à la dernière sélection et trop vieux à la mienne, parce qu'une sélection c'est une fois tous les 10 ans. Donc et puis j'étais en forme ce jour-là, peut-être j'étais de bonne humeur pour les entretiens, je sais pas, mais il y a énormément beaucoup de chance. Et puis ouais, je pense que pour être astronaute aujourd'hui, il faut pas être un expert mondial dans aucun domaine, il faut pas être un athlète de haut niveau ou un prix Nobel de physique, mais il faut avoir un peu toutes ces qualités-là une par une. Il faut être un joueur d'équipe, il faut pas avoir de trous dans la raquette, et ça, bah moi je trouve que c'est plutôt normal. Ça me paraît pas être quelque chose d'exceptionnel au final.
Et excessivement sympathique comme vous l'êtes. Merci beaucoup en tout cas, Thomas Pesquet.
Merci.
Bon vol et toutes les bonnes ondes d'RTL avec vous pour ce vol.
Merci beaucoup, Alba. Merci.
Merci.